From the conference center at
Temple, le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City. Vous allez assister à la 177e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du Tabernacle Mormon. Des membres et des officiers de l'Église sont venus du monde entier pour recevoir les conseils et les enseignements de leurs dirigeants ecclésiastiques.
This broadcast is furnished.
Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Communications. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.
Gordon B. Hinckley,
président de l'Église, dirigera cette session.
We welcome you to the first.
Nous vous souhaitons la bienvenue à la première session de la 177e conférence générale de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Nous saluons les autorités générales assises sur l'estrade au centre de conférence, dans les lieux d'appoint au tabernacle et à l'Assembly Hall, ainsi que les présidences générales de la Société de secours, des jeunes gens, des jeunes filles, de l'école du dimanche et de la primaire, qui assistent à cette conférence. Nous souhaitons une chaleureuse bienvenue aux personnalités du gouvernement, du monde de l'enseignement et aux édiles qui sont présents parmi nous. Nous remercions les propriétaires et les exploitants des nombreuses chaînes de télévision et stations de radio et des radios réseaux de diffusion par satellite et par câble qui offrent leur concours à titre de service public afin de transmettre cette conférence à un vaste auditoire dans de nombreuses régions du monde. Nous sommes également contents d'offrir ces sessions par Internet sur le site officiel de l'Église. La musique de cette session est interprétée par le chœur du Tabernacle sous la direction de Craig Jessop et de Mac Wilberg avec John Longhurst à l'orgue. Le chœur a ouvert cette session en chantant « Saint en avant, armé de foi en Christ » et interprétera à présent « La foi de nos pères ». Gene R. Cook, des 70, fera ensuite la prière d'ouverture.
Father, sleep in peace, till it's my time, John Father. Our Father in heaven, we truly are thankful for the faith of our fathers. We are thankful to thee to be gathered together in this general conference, semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. We're gathered together, as thou knowest, in this building and buildings like this around the earth. We are so thankful, Heavenly Father, that thou hast prospered the work of thy kingdom throughout the earth. Pray for the saints.
Prions pour les saints, qu'ils soient fortifiés, eux et leurs familles, chacun dans sa vie individuelle. Nous sommes reconnaissants d'être ici sous la direction de ton prophète, Gordon B. Hinckley.
Pour lui, veuille le soutenir dans cette conférence. Veuille faire qu'il sache toujours que nous l'aimons. Blesse aussi les autres frères et sœurs qui vont participer activement. Accorde-leur ton esprit, afin qu'ils parlent au-delà de leur capacité personnelle, afin qu'ils puissent, par ton esprit, toucher le cœur de tous ceux qui écoutent. Nous te prions en particulier pour que notre cœur soit ouvert et prêt à entendre, et que nous soyons humbles et prions pendant que nous écoutons, et que nous recevions ton esprit de réconfort, de consolation, et recevions les instructions et les suivions. Nous te remercions, Père, de nouveau pour les nombreuses bénédictions que tu nous accordes. Et par notre foi, nous te demandons de bénir cette bénédiction, de cette conférence. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
I will now present.
Je vais maintenant présenter les autorités générales, les 70 d'interrégion et les présidences générales des auxiliaires de l'Église pour votre soutien. Avant de le faire, je signale le décès récent de James E. Faust, deuxième conseiller dans la première présidence. C'était un homme extrêmement capable, à la grande foi et aux grandes compétences, qui a beaucoup apporté à nos réunions. Il va beaucoup nous manquer. Nous présentons nos condoléances à sa femme bien-aimée Ruth et à leurs enfants. Maintenant, il nous est proposé de soutenir Gordon Bittner Hinckley comme prophète, voyant et révélateur et président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Thomas Spencer Monson comme premier conseiller dans la première présidence et Henry Bennion Eyring comme deuxième conseiller dans la première présidence. Ceux qui sont d'accord peuvent le manifester. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir Thomas Spencer Monson comme président du Collège des 12 apôtres, Boyd Kenneth Packer comme président suppléant du Collège des 12 apôtres, et les membres suivants du dit collège: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Worthlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, et Quentin L. Cook. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. Y a-t-il des avis contraires? Il nous est proposé de soutenir les conseillers dans la première présidence et les 12 apôtres comme prophètes, voyants et révélateurs. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. Y a-t-il des avis contraires? Maintenant, il nous est proposé de relever Charles Didier, comme membres de la première présidence des collèges des 70. Il nous est aussi proposé que nous relevons les elders
Monty J. Bruff, Jean R. Cook, Robert K. Dellenbaugh, and W. Rolf Kerr as members of the first
membres du premier collège des 70 et qu'ils soient désignés comme autorité générale émérite. Que tous ceux qui souhaitent se joindre à nous pour exprimer leur remerciement le manifeste. Les avis contraires par le même signe. Elder Kerr continuera à servir en tant que commissionnaire du département d'éducation de l'Église. Il est proposé de relever
Robert F. Horton, Wayne S. Peterson, R. Conrad Schultz, and H. Ross Workman as members
en tant que membres du deuxième collège des 70. Que tous ceux qui souhaitent se joindre à nous pour exprimer leurs remerciements à ces frères le manifestent. Il nous est proposé de soutenir
Claudio R. M. Costa, Stephen F. E. Snow, and Walter F. Gonzalez as members of the presidency
de la présidence des collèges de 70.
All in favor?
Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent.
Any opposed?
S'ils avaient contraire par le même signe. Il nous est proposé de soutenir les autres autorités générales 70 d'interrégion et présidence générale d'auxiliaires telles qu'elles sont aujourd'hui organisées. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. S'il les avis contraires par le même signe.
Le soutien
semble avoir été unanime. Merci mes frères et sœurs pour votre soutien continu, pour vos foi, votre foi et vos prières. Nous demanderons maintenant à Président Eyring, Elder Cook et Gonzalez, de venir prendre leur siège. Le chœur va maintenant chanter « Come unto him ». Ensuite, Boyd K. Packer, président suppléant du Collège des 12 apôtres, nous adressera la parole. Il sera suivi de Richard C. Edgley, de l'Épiscopat président, puis nous entendrons Sœur Mary Ann Cook, deuxième conseillère dans la présidence générale des jeunes filles. Après son discours, Enrique Falabella, des 70, s'adressera à nous. Le chœur et l'assemblée chanteront ensuite « Vivons ce bonheur ». Ensuite, Spencer J. Condy, des 70, nous adressera la parole. Ils seront suivis par Dieter F. Uchtdorf, du Collège des 12 apôtres.
We honor President James E. Faust. We miss
Nous honorons la mémoire de James E. Faust, apôtre, président et ami cher, et exprimons notre amour à sa femme, Ruth. Nous souhaitons la bienvenue à ceux qui ont été appelés aux côtés de Frère Hinckley. Au nom de toutes les personnes qui ont été soutenues aujourd'hui, je dis que nous nous engageons à faire de notre mieux pour être dignes de la confiance placée en nous. Nous avons soutenu les officiers généraux de l'Église, processus solennel et sacré. On procède de cette manière chaque fois que l'on appelle ou relève d'un office, des dirigeants ou des instructeurs, ou que l'on réorganise un pieu, une paroisse, un collège ou des auxiliaires. Cela ne se fait que dans l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Nous savons toujours qui est appelé à diriger ou à enseigner et avons la possibilité de soutenir cette action ou de nous y opposer. Cela n'est pas l'invention d'un homme, mais cela a été établi par révélation. Il ne sera donné à aucun homme d'aller prêcher mon évangile ou d'édifier mon église s'il n'est ordonné par quelqu'un qui a l'autorité et dont l'Église sait qu'il a l'autorité et qui a été dûment ordonné par les chefs de l'Église. Ainsi, l'Église est protégée de tout imposteur qui prendrait le contrôle d'un collège, d'une paroisse, d'un pieu ou de l'Église. Il y a un autre principe propre à l'Église du Seigneur. Tous les appels d'enseignants et de dirigeants sont remplis par des membres de l'Église. Cela aussi a été exposé dans les Écritures. Un verset des Doctrines et Alliances a établi l'ordre dans la direction de l'Église pour toujours. Cela a été sans précédent et n'est certainement pas la coutume des églises chrétiennes d'alors ou d'aujourd'hui. C'est pourquoi, moi, le Seigneur, connaissant la calamité qui s'abattra sur les habitants de la terre, j'ai fait appel à mon serviteur Joseph Smith, fils, lui ai parlé du haut des cieux et lui ai donné des commandements. Les choses faibles du monde s'avanceront pour abattre les puissantes et les fortes. Mais afin que chacun parle au nom de Dieu, le Seigneur, le Sauveur du monde. Afin que la foi grandisse sur la terre. Afin que mon alliance éternelle soit établie. Afin que la plénitude de mon évangile soit proclamée par les faibles et les simples, jusqu'aux extrémités du monde et devant les rois et les gouverneurs. Voici, je suis Dieu, et je l'ai dit. Ces commandements sont de moi et ont été donnés à mes serviteurs dans leur faiblesse, selon leur langage, afin qu'ils les comprennent. Je suis profondément reconnaissant de ces passages d'Écriture qui expliquent que le Seigneur utilisera les choses faibles du monde. Chaque membre a la responsabilité d'accepter l'appel à servir. J. Reuben Clark, fils, a dit, « Au service du Seigneur, ce n'est pas l'endroit où l'on œuvre, mais la façon dont on le fait qui compte. Dans l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, on prend la place à laquelle on est dûment appelé, place que l'on ne brigue ni ne refuse. » L'Église n'a pas de clergé professionnel. Les gens appelés à des fonctions de direction sont pris de l'Assemblée. Nous n'avons pas de séminaire pour la formation de dirigeants professionnels. Tout ce qui se fait dans l'Église, la direction, l'enseignement, les appels, les ordinations, les prières, les chants, la préparation de la Sainte-Seine, le conseil et tout le reste, est fait par des membres ordinaires, les choses faibles du monde. Nous voyons les églises chrétiennes avoir du mal à satisfaire à leurs besoins de clergé. Nous n'avons pas ce problème. Une fois que l'Évangile est prêché et l'Église organisée, il existe une quantité inépuisable de frères et sœurs fidèles qui ont ce témoignage et sont disposés à répondre à l'appel à servir. Ils s'engagent vis-à-vis de l'œuvre du Seigneur et vivent les principes requis d'eux. Le Saint-Esprit a été conféré aux membres après leur baptême. Le Saint-Esprit les instruira et les consolera. Ils sont alors prêts à être dirigés et corrigés selon les exigences de leur appel ou leurs besoins. Ce principe met l'Église sur un chemin différent de toutes les autres églises chrétiennes du monde entier. Nous nous trouvons dans la situation exceptionnelle d'avoir une quantité inépuisable d'instructeurs et de dirigeants dans toutes les nations, familles, langues et peuples du monde entier. Il y a une égalité unique entre les membres. Nul d'entre nous ne doit croire qu'il a plus de valeur qu'un autre. Dieu ne fait point exception de personne, mais en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Jeune homme, j'ai été l'instructeur au foyer d'une sœur très âgée. Elle m'a instruit en s'appuyant sur son expérience. Lorsqu'elle était enfant, Brigham Young est venu à Brigham City, un grand événement pour la ville qui porte son nom. Pour l'honorer, on a placé tous les enfants de la primaire de blancs vêtus le long de la route menant à la ville, chacun avec un panier de fleurs pour enlacer devant le calèche du président de l'église. Quelque chose a déplu à la petite fille qu'elle était. Au lieu de lui envoyer des fleurs, elle a donné un coup de pied dans un caillou devant le calèche en disant « Il n'est pas meilleur que Papy Loveland ». Quelqu'un l'a entendu. Elle a été sévèrement punie. Je suis absolument sûr que Brigham Young serait le premier à être d'accord avec la petite Jenny Steed. Il ne se serait pas cru meilleur que Grand-Papa Loveland ou quelqu'un ou qu'un tout autre membre. Le Seigneur lui-même a été très clair. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Celui qui est désigné pour être le plus grand, même si le plus petit est le serviteur de tous. Il y a des années, j'ai reçu pour la première fois une tâche qui m'a valu d'avoir ma photo dans le journal. Un de mes professeurs de lycée, évidemment étonné, a été entendu disant « Cela prouve qu'on ne peut pas savoir, rien qu'en la regardant, à quelle hauteur une grenouille va sauter. » L'image de cette grenouille, assise dans la boue, au lieu de sauter, illustre à quel point je me suis senti incompétent devant les responsabilités que j'ai reçues. Ces sentiments font que nous ne pourrons jamais nous sentir supérieurs à quiconque. Pendant longtemps, quelque chose d'autre m'a laissé perplexe. Il y a 46 ans, à l'âge de 37 ans, j'étais superviseur du séminaire. À l'église, j'étais instructeur adjoint d'une classe de la paroisse de Lyndon. À ma grande surprise, j'ai été appelé à rencontrer David O'Mackay. Il m'a pris les mains dans les siennes et m'a appelé comme autorité générale, assistant du Collège des 12 apôtres. Quelques jours après, je suis allé à Salt Lake City pour rencontrer la première présidence pour être mise à part comme autorité générale de l'Église. C'était la première fois que je rencontrais la première présidence, le président Mackay et ses conseillers, Hubie Brown et Henry D. Moyle. Le président Mackay a expliqué qu'une des responsabilités d'un assistant du Collège des 12 était d'être un témoin spécial avec le Collège des 12 apôtres et de rendre témoignage que Jésus est le Christ. Ce qu'il a dit après m'a bouleversé. Avant que nous vous mettions à part, je vous demande de nous rendre votre témoignage. Nous voulons savoir si vous en avez un. J'ai fait de mon mieux. J'ai rendu témoignage de la même manière que je l'aurais fait dans une réunion de jeûnes et de témoignages à ma paroisse. À ma surprise, les frères de la présidence ont eu l'air satisfaits et m'ont ordonné à l'office. Cela m'a vraiment étonné, car je pensais qu'une personne appelée à un tel appel aurait un témoignage et un pouvoir spirituel exceptionnel, différent et grandement élargi. Je me suis posé la question longtemps avant de me rendre compte que j'avais déjà ce qui était requis. Le témoignage ferme dans le cœur du rétablissement de la plénitude de l'Évangile par l'intermédiaire de Joseph Smith, le prophète, du fait que nous avons un Père céleste et que Jésus-Christ est notre Rédempteur. Peut-être que je ne savais pas tout à ce sujet, mais j'avais un témoignage et j'étais disposé à apprendre. Peut-être n'étais-je pas différent de ces gens dont il est question dans le livre de Mormon. Et quiconque vient à moi, le cœur brisé et l'esprit contrit, je le baptiserai de feu et du Saint-Esprit, tout comme les Lamanites, à cause de leur foi en moi, au moment de leur conversion, ont été baptisés de feu et du Saint-Esprit, et ils ne le savaient pas. Avec les années, j'ai appris combien ce simple témoignage est important. J'ai compris que notre Père Céleste est le Père de notre esprit. C'est un Père doté de tout l'amour tendre d'un Père. Jésus a dit, « Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. » Il y a quelques années, j'étais avec Marion G. Romney pour rencontrer des présidents de mission et leurs femmes à Genève. Il leur a dit que 50 ans plus tôt, alors qu'il était missionnaire en Australie, à la fin d'un après-midi, il était allé étudier dans une bibliothèque. Lorsqu'il en est sorti, il faisait nuit. Il a regardé le ciel étoilé et il s'est produit quelque chose. L'esprit l'a touché et un témoignage sûr est né dans son âme. Il a dit à ses présidents de mission qu'il ne savait pas plus certainement que Dieu le Père vit, que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, le Fils unique du Père, et que la plénitude de l'Évangile a été rétablie en tant que membre de la première présidence qu'en tant que missionnaire en Australie 50 ans plus tôt. Il a dit que son témoignage avait changé dans le sens qu'il lui était beaucoup plus facile de recevoir une réponse du Seigneur. Le Seigneur était plus proche et il le connaissait bien mieux que 50 ans plus tôt. Il y a une tendance naturelle à croire que les personnes qui sont soutenues à des postes de présidence sont supérieures ou d'une plus grande valeur pour l'Église ou pour leur famille que ne l'est un membre ordinaire. Nous avons plus ou moins le sentiment qu'elles ont davantage de valeur pour le Seigneur que nous. Il n'en est tout simplement pas ainsi. Ce serait une grande déception pour ma femme et moi de savoir qu'un de nos enfants croit que nous pensons avoir plus de valeur que lui pour la famille ou l'Église, ou que nous croyons qu'un appel dans l'Église a plus de valeur qu'un autre, ou que nous considérons qu'un appel est de moindre importance qu'un autre. Récemment, un de nos fils a été soutenu comme dirigeant de mission de paroisse. Sa femme nous a dit à quel point il était enthousiasmé par l'appel. Il lui permet de s'acquitter de ses lourdes responsabilités professionnelles. Il a l'esprit missionnaire et fera bon usage de l'espagnol qu'il entretient depuis l'époque de sa mission. Nous étions également extrêmement contents de son appel. Ce que mon fils et sa femme font avec leurs jeunes enfants surpasse tout ce qu'ils peuvent faire dans l'Église ou à l'extérieur. Ils ne pourraient rendre de service plus important au Seigneur que d'être dévoués l'un à l'autre et à leurs jeunes enfants. Et il en est de même de nos enfants. L'objectif ultime de toute activité dans l'Église se concentre sur le foyer et la famille. Nous, autorité générale de l'Église, sommes tout comme vous, et vous, tout comme nous. Vous avez tout autant accès au pouvoir de la révélation pour votre famille, votre travail, votre appel que nous. Il est également vrai qu'il y a un ordre dans les affaires de l'Église. Lorsque vous êtes appelé à un office, vous recevez la révélation qui se rapporte à ce dernier et qui n'est donnée à nul autre. Il n'y a pas de membre ni d'appel que le Seigneur considère avec plus ou moins d'importance. Ce n'est tout simplement pas ainsi que cela marche. Souvenez-vous qu'il est Père, notre Père. Le Seigneur ne fait point exception de personne. Nous n'avons pas plus de valeur pour le développement de l'œuvre du Seigneur que frères et sœurs Paletua de Nuku'alofa, que frères et sœurs Fuentes de Santiago, que frères et sœurs Delbout des Pays-Bas, que frères et sœurs Sato du Japon, ou que des centaines d'autres membres que j'ai rencontrés lors de mes voyages autour du monde. Ce n'est tout simplement pas ainsi que cela marche. Et l'Église avance. Elle est portée par les membres dignes qui vivent de manière ordinaire dans une famille ordinaire, guidée par le Saint-Esprit et la lumière du Christ qui est en eux. Je rends témoignage que l'Évangile est vrai, que la valeur des âmes est véritable et que nous sommes bénis d'être membres de l'Église. J'ai un témoignage que j'ai au nom de Jésus-Christ. Amen.
Il y a deux ans, l'humoriste d'un journal local a fait un article sur un sujet sérieux et qui porte à réfléchir. Je le cite. Être mormon pratiquant en Utah signifie vivre si proche des autres membres de la paroisse que pratiquement rien ne peut arriver sans que tous le sachent dans les 5 minutes. Il continue, ce genre de vie, presque joue à joue, peut être envahissant. Il se trouve aussi que c'est l'une de nos plus grandes forces. L'auteur ajoute, au travail mardi, j'ai regardé le journal télévisé de midi. Une voiture avait été gravement accidentée. Une jeune mère et deux jeunes enfants avaient été transportés d'urgence à l'hôpital par hélicoptère et par ambulance. Quelques heures plus tard, j'ai appris que la voiture appartenait au jeune couple qui habite en face de chez moi à Harriman, Eric et Gina Kigley. Non seulement je vois les Kigley à l'église, mais nous avions dîné avec eux lors d'une soirée entre voisins la veille de l'accident. Nos petits-enfants jouaient avec leur fille, Bianca Miranda. Miranda, âgée de 14 mois, a été gravement blessée à la tête et est morte 3 jours plus tard, à l'hôpital des enfants de la primaire. Voici à présent le beau côté de ce manque de discrétion. L'accident s'est produit à plusieurs kilomètres de chez nous. Mais la poussière n'était pas encore retombée que quelqu'un de la paroisse s'est arrêté et s'est approché de la scène de l'accident. Le reste de la paroisse était au courant avant l'arrivée de la police et des secours. Des membres de la paroisse sont allés aux 3 hôpitaux, ont appelé Eric à son travail et se sont organisés en équipe de travail. Les gens qui n'avaient pas répondu aux besoins immédiats étaient impatients de pouvoir aider. En 48 heures, la pelouse des Kigley était tondue, leur maison nettoyée, la lessive faite, le réfrigérateur rempli, les membres de la famille nourris et un fonds d'entraide était ouvert à la banque. Nous aurions béni leur chien s'ils en avaient eu un. L'auteur conclut par la réflexion suivante. Il y a un côté positif au microscope paroissial sous lequel vivent les membres de ma paroisse. Ce qui arrive à quelques-uns arrive à tous. La compassion des membres de la paroisse et le service qu'ils ont rendu après cet accident tragique ne sont pas propres à cet accident. Alma, le prophète du livre de Mormon, explique aux disciples potentiels du Christ, « Vous désirez entrer dans la bergerie de Dieu et être appelé son peuple, et être disposé à porter les fardeaux des uns des autres, afin qu'ils soient légers. Oui, être disposé à pleurer avec ceux qui pleurent, et à consoler ceux qui ont besoin de consolation. » Puis, comme Alma l'a expliqué, ils ont été préparés au baptême. Cette écriture explique pourquoi nous nous occupons les uns des autres avec compassion. La paroisse est organisée pour répondre aux besoins des personnes qui ont les épreuves les plus difficiles et les plus douloureuses. L'évêque, souvent considéré comme le père de la paroisse, est là pour apporter des conseils et de l'aide. Mais aussi, à portée de main, il y a les dirigeants de la prêtrise de Melchizedek et d'Aaron, la présidence de la société de secours, les instructeurs au foyer, les instructeuses visiteuses et les membres de la paroisse. Toujours les membres de la paroisse. Tous sont là pour apporter de la consolation et faire preuve de compassion en cas de besoin. Dans mon voisinage immédiat, nous avons eu notre lot de tragédies déchirantes. En octobre 1998, Zach Newton, 19 ans, qui habitait à seulement 3 maisons de chez nous, a été tué dans un accident de voiture. Moins deux ans après, Andrea Richards, 19 ans, qui habitait juste en face de chez les Newton, a été tué dans un accident de voiture. Un samedi après-midi de juillet 2006, Travis Batian, ancien missionnaire de 28 ans, et sa sœur Désirée, 15 ans, qui habitait en face de chez nous, deux maisons plus haut, ont été tués dans un accident de voiture. Juste un mois après, en août 2006, Eric Gold, 32 ans, qui a grandi dans la maison voisine de la nôtre, est mort. Et d'autres personnes de ce quartier ont aussi persévéré face à des difficultés déchirantes connues d'elles seules et de Dieu. On pourrait penser que la mort de cinq jeunes représente un nombre inhabituel d'épreuves pour un petit quartier. Je préfère penser que ce nombre ne paraît grand que parce que les membres d'une paroisse unie et attentionnée savent quand il y a un besoin pressant. C'est une paroisse avec des membres qui suivent l'exhortation d'Alma et du Sauveur, qui se soucient des autres, s'aiment et portent les fardeaux les uns des autres. Des membres prêts à pleurer avec ceux qui pleurent, à consoler ceux qui ont besoin de consolation. Des membres qui persévèrent ensemble. À chacun de ces accidents, nous avons vu un déversement d'amour, de service et de compassion inspirant pour tous. Les évêques sont arrivés, les instructeurs au foyer, les instructrices visiteuses sont entrées en action, les collèges, la prêtrise, la société de secours se sont organisés pour s'occuper des besoins spirituels et temporels. On a rempli des réfrigérateurs, nettoyé des maisons, tondu des pelouses, taillé des buissons, repeint des clôtures, et des épaules accueillantes étaient disponibles pour s'y épancher. Les membres étaient partout. Dans chacun de ces cas, la famille qui avait perdu un être cher a exprimé une plus grande foi, un plus grand amour pour le Sauveur, une plus grande gratitude pour l'expiation et une reconnaissance sincère pour l'organisation qui a répondu aux besoins émotionnels et spirituels les plus profonds de ses membres. Ces familles disent qu'elles ont appris à connaître le Seigneur par leurs épreuves. Elles racontent beaucoup de belles expériences qui ont découlé de leur chagrin. Elles témoignent que des bénédictions peuvent émerger de la douleur. Elles louent le Seigneur. Elles se font l'écho des paroles de Job. L'Éternel a donné et l'Éternel a donné, a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En portant les fardeaux les uns des autres, en tant que membres de la paroisse, nous avons appris plusieurs leçons. Premièrement, l'organisation du Seigneur est totalement compétente pour savoir qui a les besoins émotionnels et spirituels les plus urgents et pour s'occuper d'eux. Deux, l'adversité peut nous rapprocher de Dieu en nous permettant d'apprécier davantage la prière, l'expiation, qui s'applique au chagrin et la souffrance dans toutes leurs manifestations. Trois, les membres qui subissent personnellement une tragédie en retirent souvent une plus grande capacité d'aimer, d'avoir de la compassion et de la compréhension. Ils deviennent les premiers, les derniers, et souvent les plus efficaces à apporter de la consolation et à montrer de la compassion envers les autres. Quatre, les membres d'une paroisse, comme ceux d'une famille, se rapprochent en persévérant ensemble. Ce qui arrive à l'un arrive à tous. Cinq, et plus important peut-être, nous pouvons chacun avoir plus de compassion et de sollicitude, parce que nous pouvons chacun tirer partie de l'expérience de nos propres épreuves. Nous pouvons persévérer ensemble. Je me réjouis d'appartenir à une organisation aussi aimante et attentionnée. Personne ne sait mieux que les saints comment porter les fardeaux les uns des autres, pleurer avec ceux qui pleurent et consoler ceux qui ont besoin de consolation. Je choisis d'appeler cela persévérer ensemble. Ce qui arrive à l'un arrive à tous. Nous persévérons ensemble. Puissions-nous être un instrument pour alléger le fardeau d'autres personnes. C'est là ma prière, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Chaque dimanche, de la Mongolie à Manchester et au Mississippi, les jeunes filles de l'Église répètent ces paroles inspirées. Nous nous préparerons à fortifier le foyer et la famille, à faire et à garder les alliances sacrées et à recevoir les ordonnances du Temple et les bénédictions de l'exaltation. C'est le thème des jeunes filles, mais il s'applique à tous les jeunes de l'Église. J'espère qu'il vous aide, mes jeunes frères et sœurs, à comprendre tout le pouvoir que vos actions individuelles peuvent avoir pour fortifier votre foyer, votre famille, quelle que soit votre situation. Je sais, par exemple, que vous êtes beaucoup à être le seul membre de l'Église de votre famille. Jeunes, soyez forts, nous rappelle que c'est une grande bénédiction que de faire partie d'une famille. Les familles ne sont pas toutes les mêmes, mais chacune est d'une importance, est importante dans le plan de notre Père Céleste. Toutes les familles ont besoin d'être fortifiées, de la famille idéale à celle qui a le plus de difficultés. Vous êtes celui qui est, ou celle qui la fortifie. En fait, dans certaines familles, il se peut que vous soyez la seule source de force spirituelle. Le Seigneur a besoin de vous pour apporter les bénédictions de l'Évangile à votre famille. Il est important de prendre personnellement des habitudes de droiture qui vous permettront d'être un bon exemple pour votre famille, quelle que soit sa composition. L'exemple de votre droiture fortifiera votre famille. Lors des réunions générales des jeunes filles du printemps dernier, le président Hinckley a donné aux jeunes filles un programme simple en 4 points qui non seulement assurera votre bonheur, mais sera aussi une bénédiction pour votre famille. Il a conseillé à chacun de nous, priez, étudiez, payez votre dîme et assistez à vos réunions. La recherche quotidienne de l'aide du Seigneur par la prière apportera de grandes bénédictions à votre famille. Posez les questions suivantes. À qui dans ma famille mes prières pourraient-elles faire du bien? Que pourrais-je faire pour soutenir et encourager les prières en famille? En étudiant personnellement les Écritures, vous connaîtrez le Sauveur et ses enseignements. Son exemple vous apprendra à aimer, à servir les membres de votre famille et à leur pardonner. Réfléchissez à la manière dont vous pourriez partager votre compréhension des Écritures avec votre famille. À plusieurs reprises, le président Hinckley nous a exhortés à faire le plus possible d'études. Vos études profiteront à votre famille maintenant et seront certainement une bénédiction pour votre future famille. Que pouvez-vous faire maintenant pour vous préparer à faire de bonnes études? Le président Hinckley nous a enseigné, la dîme se paye avec de l'argent, mais chose plus importante, elle se paye avec de la foi. Avez-vous en ce moment les bénédictions découlant du paiement de la dîme avec foi? Si vous obéissez à ce commandement, le Seigneur ouvrira les écluses des cieux pour vous bénir, vous et votre famille. Comment l'assistance aux réunions, particulièrement à la réunion de Sainte-Cène, peut-elle être une bénédiction pour vous et votre famille? Prendre régulièrement la Sainte-Cène vous aidera à respecter votre alliance du baptême. En menant une vie digne et en renouvelant cette alliance chaque semaine, vous serez guidé par l'Esprit. Le Saint-Esprit vous guidera et vous enseignera ce que vous devez faire pour être une bénédiction pour votre famille. Si vous vous engagez à suivre ces habitudes de droiture, vous serez béni toute votre vie et vous établirez un fondement spirituel qui vous permettra de fortifier votre famille par l'exemple. Paul, du Nouveau Testament, comprenait bien et enseignait l'influence bénéfique de votre exemple. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. La rubrique famille, de jeunes soyez forts, donne d'excellents moyens d'être un modèle pour les fidèles dans votre propre foyer. Soyez de bonne humeur, serviable et plein de considération. Préoccupez-vous des besoins des autres membres de la famille. Honorez vos parents. Participez aux traditions familiales, notamment à la prière en famille, la soirée familiale et la lecture des Écritures. Ces traditions fortifient et unissent la famille. Resserrez vos liens avec vos frères et sœurs. Ils peuvent devenir vos amis les plus intimes. L'exemple est souvent le meilleur instructeur. Qui, dans votre famille, pourrait bénéficier de votre exemple? Un frère, une sœur, votre mère, votre père? Je vais vous raconter une expérience de ma propre vie où les habitudes de droiture et l'exemple de mon frère ont valu à notre famille d'être bénis éternellement. Mon frère et moi sommes nés de bons parents qui nous aimaient et ont fait de grands sacrifices pour nous. Mais notre famille n'avait pas la bénédiction d'avoir reçu les ordonnances sacré du temple. Il y a de nombreuses années, une fin décembre, nous avons reçu une lettre de mon frère qui servait dans la mission de Californie du Nord. Sur l'enveloppe était écrit « Ne pas ouvrir tant que vous n'êtes pas tous réunis ». Quand mon père, ma mère et moi avons été réunis, nous avons ouvert sa lettre de 7 pages tapée à la machine. Nous avons lu son témoignage de la prière. Il nous enseignait la doctrine de la famille éternelle d'après les Écritures. Nous avons lu comment le jeûne et la prière avaient aidé ses amis de l'Église à se préparer à recevoir l'ordonnance du baptême. Il nous assurait que notre famille aussi pouvait être bénie par le jeûne et la prière. Puis venait le défi suivant. L'évêque de la paroisse de Stanford a parlé il y a 2 mois d'un sujet qui m'a beaucoup touchée. Son discours m'a fait prendre conscience des objectifs que je veux atteindre dans la vie. Il m'est venu en tout premier à l'esprit le but que je veux atteindre avec ma propre famille, qui est bien sûr d'être scellée à vous, maman et papa, pour le temps et pour l'éternité dans la maison du Seigneur. Je vous aime et je veux que notre famille soit ensemble dans les éternités. Puis il a écrit en conclusion, ma prière est que le Seigneur vous guide pour cette décision importante et que vous puissiez prier ensemble en famille. J'étais adolescente et j'avais moi aussi prié pour que ma famille ait cette bénédiction. Cette lettre apportait de l'espoir à mon désir juste. La nouvelle année fut l'occasion pour notre famille de faire quelques changements. Dans les mois qui ont suivi, nous avons pris des habitudes familiales de droiture. Nous avons prié ensemble, étudié les ordonnances du temple, payé la dîme et assisté régulièrement aux réunions en famille. Peu après le retour de mission de mon frère, nous étions prêts à recevoir les ordonnances du temple. Quand, au Saint-Autel du Temple, nous avons été scellés en famille pour le temps et pour l'éternité, j'ai su que le Seigneur avait entendu nos prières. Pouvez-vous faire changer les choses dans votre famille? Oui, vous le pouvez. Je me demande souvent où en serait la progression éternelle de ma famille si mon frère n'avait pas écrit cette lettre pleine de puissance. Ses habitudes de droiture et son exemple ont changé notre vie. Robert Diels a dit, si l'exemple que nous avons reçu de nos parents n'était pas le bon, nous avons la responsabilité de rompre le cycle. Chacun peut apprendre à mieux faire, moyennant quoi les familles sont bénies maintenant et de bonnes traditions sont enseignées pour les générations futures. Souvenez-vous que la famille est essentielle au plan du Créateur pour la destinée éternelle de ses enfants. Les familles éternelles sont composées d'individus. Faites votre part pour que votre foyer soit heureux. Prenez personnellement des habitudes de droiture et soyez un modèle pour les fidèles. Le Seigneur a besoin que vous participiez à l'exaltation de votre famille éternelle. Je sais que Jésus-Christ vit. Il vous connaît et vous aime. Il nous a bénis, ma famille et moi, et je sais qu'il vous bénira, votre famille et vous. J'en témoigne humblement au nom de Jésus-Christ. Amen.
Why are we members of the only true church?
Pourquoi sommes-nous membres de la seule vraie Église? Je ne peux pas répondre à cette question pour les 13 millions de membres de l'Église, mais je voudrais donner du fond de mon cœur quelques réponses qui correspondront probablement aux vôtres. Je n'ai pas connu la richesse dans mon enfance. Nous étions 5, mon père et 4 enfants. Ma mère est morte quand j'avais 5 ans. Les maigres revenus de mon père servaient à acheter notre nourriture. L'achat de vêtements était reporté aussi longtemps que possible. Un jour, quelque peu ennuyé, je suis allé demander à mon père, « Papa, pourquoi ne m'achètes-tu pas des chaussures ? Regarde les miennes, elles sont complètement usées et l'on voit mon gros orteil par un trou. » Il m'a répondu, on va arranger ça. Et avec du cirage noir, il a ciré mes chaussures. Puis il m'a dit, mon fils, ça y est, c'est arrangé. J'ai répondu, non, on voit toujours mon gros orteil. Il m'a dit, on peut aussi arranger ça. Il a repris le cirage, en a mis sur mon orteil. Il a fait briller comme mes chaussures. C'est donc tôt dans la vie que j'ai appris que le bonheur n'est pas une question d'argent. Par la suite, 2 missionnaires nous ont enseigné les richesses de l'Évangile rétabli, de la doctrine du plan de salut et de la famille éternelle. Nous nous sommes fait baptiser, et quand mon père a été appelé président de district, son premier objectif a été de faire le voyage jusqu'au temple pour recevoir les bénédictions qui allaient découler de ce sacrifice. C'était un voyage de 15 jours, long de 8000 kilomètres.
A journey filled with difficulties.
Un voyage plein de difficultés.
And setbacks. Highways in poor
et de contretemps, de routes en mauvais état, d'autocars inconfortables. D'un parcours qu'on ne connaissait pas, mais avec beaucoup d'espérance et les ordonnances auxquelles nous allions participer. En arrivant à Mesa, en Arizona, nous avons descendu une avenue au bout de laquelle nous pouvions voir la maison du Seigneur, resplendissante et belle. Je me souviens de la joie que nous avons éprouvée. Nous sommes tous unis à chanter et à louer Dieu, et beaucoup de saints pleuraient. Par la suite, dans le temple, nous nous sommes agenouillés en famille pour entendre les belles promesses de famille éternelle, avec la certitude que notre mère, bien qu'absente, était maintenant notre mère pour toujours. Et nous avons ressenti la paix de savoir que nous sommes une famille éternelle. La promesse de vie éternelle nous a ainsi donné les richesses de l'éternité. Voici, celui qui a la vie éternelle est riche. L'Église de Jésus-Christ est une église de prêtres, un sacerdoce royal, une nation sainte. Combien de fois j'ai pu entendre chez nous la douce voix d'un petit enfant dire « Papa, peux-tu me donner une bénédiction ?» Je mettais alors les mains sur sa tête, dans un moment de douleur et de difficulté, pour prononcer des bénédictions de consolation et de guérison, et voir le pouvoir de la prêtrise exercer son influence. Et le lendemain, j'entendais cette petite voix dire, « Merci, papa, j'ai bien dormi cette nuit. » Nous n'avons pas à sortir pour chercher quelqu'un qui a ce pouvoir. Nous l'avons chez nous. Quelle bénédiction de pouvoir enseigner ce principe à nos enfants. C'est la seule Église sur la terre à offrir une telle bénédiction aux familles. Par ce pouvoir, j'ai pu ordonner chacun de mes fils à la prêtrise et leur donner ainsi le pouvoir de Dieu d'administrer ses ordonnances. Jeune homme peut avoir ce pouvoir. Et c'est aussi pour cela que je suis membre de l'Église. Parce que le pouvoir de l'Église est de nouveau sur terre et qu'il est parvenu jusque dans nos foyers. Le pouvoir le plus précieux que nous puissions posséder est le trésor, qui est un témoignage personnel de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous obtenons un témoignage en menant une vie digne et en le recherchant par la prière. Et l'Esprit vous sera donné par la prière de la foi. C'est ainsi que notre Seigneur a conseillé le prophète Joseph. Quand mon fils Daniel avait 6 ans, il a vu un jour que je me faisais du souci parce que je devais assister à une conférence de pieux. Je ne savais pas trop quoi enseigner au sein. Il est venu me dire, « Papa, c'est vraiment facile. C'est ainsi que les enfants voient les choses. » Je lui ai dit, « Alors, mon fils, si c'est si facile, dis-moi de quoi je peux parler. » Il m'a répondu, « Parle de la prière. C'est un bon sujet, » je lui ai répondu. Mais ils ont déjà entendu beaucoup parler de la prière. Qu'est-ce que je pourrais leur dire de nouveau? C'est facile aussi, papa. Dis-leur d'abord, avant de commencer à parler à notre Père Céleste, il faut réfléchir aux choses qu'on veut lui dire. Cela semble être une idée merveilleuse, ai-je répondu. Et ensuite, eh bien, quand on y a réfléchi, il faut lui dire. Quand on a fini, il faut attendre et voir s'il a quelque chose à nous dire. Ainsi, par nos prières, l'Esprit parle à notre esprit et nous témoigne et nous témoigne de la réalité de notre Sauveur. Je suis émerveillé de l'amour dont mon Sauveur Jésus-Christ a fait preuve en descendant des demeures célestes et en venant dans un monde où la majorité des gens ont rejeté son message. Et bien qu'ils n'eussent pas le pouvoir de lui ôter la vie, ils l'ont condamné à mort. Le Christ a payé pour mes péchés, mes maladies, mes afflictions et mes chagrins. Sa douleur a été indescriptible. Luc a seulement mentionné que sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Voici la raison principale de mon appartenance à l'Église, parce que le Saint-Esprit est entré dans mon cœur et m'a fait savoir que le Christ vit, qu'il est mon Sauveur, qu'il a payé pour mes péchés et qu'il a préparé le chemin pour que, si je mène une vie en accord avec ses préceptes, je puisse avoir toutes les autres bénédictions promises. Il y a quelques semaines, mon père est mort à son tour. Et plus que jamais, je suis reconnaissant à mon Dieu de la richesse et de la beauté de sa doctrine. Parce que la vie familiale peut continuer au-delà du seuil de la mort. Parce que la prêtrise royale a été rétablie sur la terre. Et parce que l'Esprit a parlé à mon esprit, me donnant le témoignage que mon Sauveur Jésus-Christ vit. Et que grâce à son intercession, je peux, si je suis fidèle, vivre avec lui. Pour cette raison, et pour d'autres encore, je suis membre de la seule vraie Église sur la face de la terre, et j'en serai éternellement reconnaissant. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
This is the 177th semi-annual General Conference.
Vous assistez à la 177e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
I bring you the love and greetings of the faithful saints in the South Pacific.
Je vous envoie l'amour des membres du Pacifique Sud. Le premier principe de l'Évangile est la foi au Seigneur Jésus-Christ, qui inclut la foi en sa naissance divine et en son héritage céleste, et la foi que sous la direction de son Père, il a créé la terre et tout ce qui s'y trouve. L'objet central de notre foi en Christ est l'assurance que grâce à son sacrifice expiatoire, même si nos péchés sont comme le cramoisi, ils peuvent devenir blancs comme la neige. La foi au Christ comprend la connaissance que suite à sa crucifixion, il est sorti du tombeau et que sa résurrection a rendu possible que tout le genre humain ressuscite. La foi au Christ est l'assurance que lui et son Père Céleste sont apparus à un jeune homme, Joseph Smith, préparant la voie au rétablissement de toutes choses dans la dispensation de la plénitude des temps. Jésus-Christ est le chef de l'Église qui porte son saint nom. La foi au Seigneur Jésus-Christ se manifeste lorsque nous croyons à ses enseignements, obtenons la réalisation de ses plus grandes et plus précieuses promesses et devenons participants de la nature divine. Des promesses innombrables ont été proclamées par ses prophètes et le Seigneur nous assure « Ma parole ne passera pas, mais s'accomplira entièrement, que ce soit par ma voix ou par la voix de mes serviteurs, c'est la même chose. » En ces derniers jours, le Seigneur révèle que lorsque nous obtenons une bénédiction quelconque de Dieu, c'est par l'obéissance à cette loi sur laquelle elle repose. Le Seigneur fait des promesses généreuses et il certifie qu'il ne modifiera pas ses promesses, car, dit-il, « Moi, le Seigneur, je suis lié lorsque vous faites ce que je dis, mais lorsque vous ne faites pas ce que je dis, vous n'avez pas de promesses. » Les plus grandes et les plus précieuses promesses, parmi elles, il y a le pardon de nos péchés lorsque nous les confessons et les délaissons. L'ouverture des écluses des cieux est une promesse qui se réalisera pour les personnes qui payent fidèlement la dîme et la découverte de grands trésors de connaissances est accordée aux personnes qui respectent la parole de sagesse. Être préservé des souillures du monde est une promesse faite aux personnes qui sanctifient le jour du sabbat. L'inspiration et les conseils divins sont promis aux personnes qui se font un festin des paroles du Christ et qui appliquent les Écritures à eux. Le Seigneur a promis « Tout ce que vous demanderez de juste au Père, en mon nom, croyant le recevoir, voici, cela vous sera donné. » Nous avons aussi la promesse que le Saint-Esprit sera notre compagnon constant si la vertu orne sans cesse nos pensées. Nous pouvons aussi avoir droit à la réalisation de la promesse spirituelle libératrice du jeûne qui détachera les chaînes de la méchanceté, dénouera les liens de la servitude et rompra toute espèce de joug. Les personnes qui sont scellées dans les saints temples et qui respectent fidèlement leurs alliances recevront la gloire de Dieu, qui sera une plénitude et une continuation des postérités pour toujours et à jamais. Parfois, dans notre impatience terrestre, nous pouvons perdre de vue les précieuses promesses du Seigneur et ne plus faire le rapport entre notre obéissance et la réalisation de ses promesses. Le Seigneur a déclaré, « Qui serais-je, dit le Seigneur, si j'avais promis et n'avais pas accompli ?» Je commande et les hommes n'obéissent pas. Je révoque et ils ne reçoivent pas la bénédiction. Alors ils disent dans leur cœur, ce n'est pas l'œuvre du Seigneur, car ses promesses ne se sont pas accomplies. Mais malheur à ceux-là, car leur récompense les attend en bas et non en haut. Les éléments importants de la foi sont la patience, la longanimité et la persévérance jusqu'à la fin. L'apôtre Paul parle de la foi d'Abel, Enoch, Noé, Abraham et Sarah et conclut. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ces saints fidèles savaient que cette vie terrestre était un voyage et non leur destination finale. Quand Abraham avait 75 ans, le Seigneur lui a promis « Je ferai de toi une grande nation » à une époque où Sarai et lui n'avaient pas encore d'enfants. Abraham avait 86 ans lorsqu'Agar, la servante de Sarai, lui enfanta Ismaël. Et le Seigneur changea le nom d'Abraham en Abraham et celui de Sarai en Sarah. Et lorsqu'il eut 100 ans, et elle, 90 ans, il leur fut promis que Sarah enfanterait un fils qu'il faudrait nommer Isaac. Devant leur incrédulité, le Seigneur a demandé, « Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? » Et Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. Et le Seigneur promit à Abraham, « Je te bénirai, et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. » Le jeune Isaac devint un homme, et lorsqu'il eut 40 ans, il épousa Rebecca. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. et donna naissance à des fils jumeaux, Ésaü et Jacob, quand leur père avait 60 ans. Lorsque Jacob fut suffisamment mûr et eut l'âge requis, ses parents, Isaac et Rebecca, l'envoyèrent dans la maison de Laban, où il y rencontrerait les deux filles de Laban, Léa et Rachel. Jacob dit à Laban, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Souvenez-vous de la façon dont Laban a trompé Jacob pour qu'il épouse tout d'abord Léa, puis Rachel. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Et Léa a mis au monde Ruben, puis Siméon, puis Lévi et Judas. Pendant ce temps, Rachel demeurait sans enfant.
One day Rachel explosively demanded of Jacob, "Give me children or else I die."
Donne-moi des enfants ou sinon je meurs, a-t-elle demandé au père. L'apôtre Pierre témoigne, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous. À cette époque de nettoyage à sec en 1 heure et de restauration rapide à la minute, il peut parfois nous sembler que notre Père céleste aimant a égaré nos précieuses promesses ou qu'il les a mises en attente ou les a rangées sous le mauvais nom. Tels étaient les sentiments de Rachel. Mais avec le temps, nous rencontrons 5 des mots les plus beaux des écrits saints. Dieu se souvint de Rachel. Elle eut la bénédiction de donner naissance à Joseph et plus tard à Benjamin. Il y a des millions de personnes sur Terre aujourd'hui qui sont des descendants de Joseph, qui ont accepté la promesse abrahamique qu'à travers leurs efforts, toutes les familles de la terre seraient bénies des bénédictions de l'Évangile, lesquelles sont les bénédictions du salut, de la vie éternelle. Je prie pour que, quand les promesses célestes paraissent parfois lointaines, chacun d'entre nous se saisisse de ces promesses extrêmement grandes et précieuses et ne l'a jamais prise. Et tout comme il s'est souvenu de Rachel, Dieu se souviendra de vous. J'en témoigne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
I still rejoice in the wonderful spirit we felt.
Je me réjouis encore du merveilleux esprit que nous avons ressenti ce matin. En chantant ensemble, vivons ce bonheur que Jésus nous présente. Nous n'errerons plus sur terre en étranger. La bonne nouvelle en tout pays s'implante. Ces paroles de William Phelps sont assez contraires à la tendance du monde de se concentrer sur les mauvaises nouvelles. Il est vrai que nous vivons à une époque annoncée dans les Écritures comme un jour de guerre, de bruit de guerre et de tremblement de terre en divers lieux, où toute la terre sera en tumulte et le cœur des hommes leur manquera. Mais quel effet cela a-t-il sur nous, membres de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours? Vivons-nous dans l'appréhension, la peur et l'inquiétude? N'avons-nous, au milieu de toutes ces difficultés, aucune raison de nous réjouir? Nous avons tous des expériences différentes dans la vie. Certaines sont faites de joie, d'autres de chagrin et d'incertitude. Je me souviens d'une époque, quand j'étais enfant, où la situation de notre famille ne semblait pas très bonne. C'était pendant l'hiver 1944, l'un des plus froids de la Deuxième Guerre mondiale. Le front approchait de notre ville et ma mère a dû nous emmener, ses 4 enfants, abandonnant tous nos biens pour nous joindre aux millions de réfugiés qui fuyaient cherchant désespérément un endroit où survivre. Mon père était toujours dans l'armée, mais ma mère et lui avaient convenu que, s'ils étaient séparés pendant la guerre, ils essaieraient de se retrouver dans la ville où habitaient mes grands-parents. Ils pensaient que c'était l'endroit où ils avaient le plus de chances de trouver abri et sécurité. Avec les raids de bombardiers pendant la nuit et les attaques aériennes pendant la journée, il nous a fallu de nombreux jours pour rejoindre mes grands-parents. J'ai le souvenir de jours sombres et froids. Mon père nous est revenu sans blessure, mais notre avenir semblait extrêmement sombre. Nous vivions dans les ruines de l'Allemagne d'après-guerre, avec le sentiment écrasant d'avoir un avenir sans espoir et sombre. Au milieu de ce désespoir, ma famille a connu l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et le message guérisseur de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ. Ce message a tout changé. Il nous a élevés au-dessus de notre misère quotidienne. La vie était toujours très difficile et la situation toujours horrible, mais l'Évangile a apporté de la lumière, de l'espérance et de la joie dans notre vie. Les vérités simples de l'Évangile ont réchauffé notre cœur et éclairé notre esprit. Elles nous ont aidés à nous regarder et à regarder le monde autour de nous avec des yeux différents et d'un point de vue plus élevé. Mes chers frères et sœurs, l'Évangile rétabli de Jésus-Christ et notre appartenance à son Église ne sont-ils pas de grandes raisons de nous réjouir? Où que vous viviez sur la terre, et quelle que soit votre situation dans la vie, je vous témoigne que l'Évangile de Jésus-Christ a le pouvoir divin de vous élever haut au-dessus de ce qui peut parfois paraître un fardeau ou une faiblesse insupportable. Le Seigneur connaît votre situation et vos difficultés. Il a dit à Paul et à nous tous, « Ma grâce te suffit ». Et comme Paul, nous pouvons répondre, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. En tant que membres de l'Église de Jésus-Christ, nous pouvons prétendre aux bénédictions promises dans les alliances et les ordonnances que nous avons faites et reçues quand nous avons accepté l'Évangile de Jésus-Christ. Qu'est-ce que l'Évangile de Jésus-Christ? L'Évangile de Jésus-Christ est une bonne nouvelle, une joyeuse nouvelle, et beaucoup plus. C'est le message de salut maintes fois annoncé par Jésus-Christ et ses apôtres et prophètes. Je crois fermement que toute vérité et toute lumière émanant de Dieu sont contenues dans l'Évangile de Jésus-Christ. Dieu, notre Père céleste aimant, a dit que son œuvre et sa gloire sont de réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. Dieu, le Père, est l'auteur de l'Évangile. C'est l'élément clé de son plan du salut ou plan de rédemption. Il s'appelle Évangile de Jésus-Christ parce que c'est par l'expiation de Jésus-Christ que la rédemption et le salut sont possibles. Grâce à l'expiation, tous les hommes, femmes et enfants sont inconditionnellement rachetés de la mort physique et seront rachetés de leurs péchés à condition qu'ils acceptent l'Évangile de Jésus-Christ et y obéissent. L'Évangile du Christ est le seul véritable Évangile et il n'y aura aucun autre nom donné, ni aucune autre voie, ni moyen par lesquels le salut puisse parvenir aux enfants des hommes, si ce n'est dans et par le nom du Christ. Les éléments fondamentaux du message de l'Évangile sont énoncés dans toutes les Saintes Écritures, mais nous sont donnés très clairement dans le Livre de Mormon et dans les révélations à Joseph Smith, le prophète. Là, Jésus explique clairement lui-même sa doctrine et son Évangile auquel les enfants de Dieu doivent se conformer pour avoir la vie éternelle. L'Évangile est clair et simple. Il répond aux questions de la vie les plus complexes. Et pourtant, un jeune enfant peut le comprendre et l'appliquer. Comme Néphi a dit, « Mon âme fait ses délices de la clarté, car c'est de cette manière que le Seigneur Dieu agit parmi les enfants des hommes, car le Seigneur Dieu donne la lumière à l'intelligence, car il parle aux hommes selon leur langage pour qu'ils comprennent. » Joseph Smith, le prophète, a utilisé le même schéma de clarté et de simplicité pour expliquer au monde de manière très concise les premiers principes et ordonnances de l'Évangile que nous devons accepter pour recevoir les bénédictions éternelles de l'Évangile. Premièrement, la foi au Seigneur Jésus-Christ, croyant au Rédempteur, le Fils de Dieu, avec une foi ferme en lui, vous reposant entièrement sur les mérites de celui qui est puissant à sauver. Puis, marchant résolument, avec constance dans le Christ, vous faisant un festin de la parole du Christ. Deuxièmement, le repentir, qui comprend un changement d'esprit, offrant un sacrifice, en sacrifice un cœur brisé et un esprit contrit, abandonnant le péché et devenant doux et humble comme un petit enfant. Troisièmement, le baptême par immersion pour la rémission des péchés et comme alliance de respecter les commandements de Dieu et de prendre sur nous le nom du Christ. Quatrièmement, l'imposition des mains pour le don du Saint-Esprit, aussi connu sous le nom de baptême de feu, qui nous sanctifie et fait de nous de nouvelles créatures nées de Dieu. Le don du Saint-Esprit qui nous est donné par notre Père Céleste et administré par quelqu'un qui détient l'autorité contient la promesse miséricordieuse suivante. Si vous voulez entrer par le chemin et recevoir le Saint-Esprit, il vous montrera tout ce que vous devez faire. Par la compagnie constante du Saint-Esprit, tous les membres de l'Église peuvent recevoir directement les paroles du Christ, à tout moment et en tout lieu. Ce guide divin personnel nous aide à rester vaillants dans le témoignage de Jésus-Christ et à endurer jusqu'à la fin de nos jours. N'est-ce pas merveilleux? N'avons-nous pas raison de nous réjouir? Que signifie persévérer jusqu'à la fin? Les Écritures nous enseignent qu'une fois que nous avons reçu les ordonnances du baptême et de la confirmation, notre tâche est alors de persévérer jusqu'à la fin. Quand j'étais enfant, persévérer jusqu'à la fin signifiait principalement pour moi que je devais faire davantage d'efforts pour rester éveillé jusqu'à la fin de nos réunions de l'Église. Ensuite, quand j'étais adolescent, ma compréhension de cette expression des Écritures n'a pas beaucoup progressé. Je la reliais avec sympathie aux efforts de nos chers membres âgés pour tenir bon jusqu'à la fin de leur vie. Persévérer jusqu'à la fin ou rester fidèle aux lois et aux ordonnances de l'Évangile de Jésus-Christ jusqu'à la fin de notre vie, est une condition fondamentale du salut dans le royaume de Dieu. Cette croyance distingue les saints des derniers jours de beaucoup d'autres églises chrétiennes qui enseignent que le salut est donné à tous ceux qui simplement croient et confessent que Jésus est le Christ. Le Seigneur a clairement déclaré, « Et si tu gardes mes commandements et persévères jusqu'à la fin, tu auras la vie éternelle, don qui est le plus grand de tous les dons de Dieu. » Persévérer jusqu'à la fin n'est donc pas simplement tolérer passivement les difficultés de la vie ou tenir bon. Nous avons une religion active qui aide les enfants de Dieu sur le chemin étroit et resserré à développer tout leur potentiel durant cette vie et à retourner un jour auprès de lui. Vu de cette manière, persévérer jusqu'à la fin est quelque chose d'exaltant et de glorieux, pas de sombre et de lugubre. Nous avons une religion de joie, d'espérance, de force et de délivrance. Adam tomba pour que les hommes fussent et les hommes sont pour avoir la joie. Persévérer jusqu'à la fin est un processus qui occupe chaque minute de notre vie, chaque heure, et chaque journée du lever au coucher du soleil. On y arrive par l'autodiscipline, en respectant les commandements de Dieu. L'évangile rétabli de Jésus-Christ est un mode de vie. Il n'est pas quelque chose qu'on ne peut vivre que le dimanche. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons uniquement par habitude ou par tradition, si nous voulons récolter toutes les bénédictions promises. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Persévérer jusqu'à la fin implique de persévérer à bien faire, de s'efforcer de respecter les commandements et d'accomplir les œuvres de la justice. Cela demande des sacrifices et du travail. Pour persévérer jusqu'à la fin, nous devons faire confiance à notre Père Céleste et faire des choix sages, notamment payer la dîme et les offrandes, respecter nos alliances du Temple, et servir le Seigneur et notre prochain de bon cœur et fidèlement dans nos appels et nos responsabilités dans l'Église. Cela demande de la force de caractère, de l'altruisme, de l'humilité, de l'intégrité et de l'honnêteté envers le Seigneur et envers nos semblables. Cela signifie faire de notre foyer une place forte et un refuge contre les maux du monde. Cela signifie aimer et honorer notre conjoint et nos enfants. En faisant de notre mieux pour persévérer jusqu'à la fin, nous serons affinés. Nous apprendrons à faire du bien à ceux qui nous haïssent et à prier pour ceux qui nous maltraitent. En persévérant jusqu'à la fin, nous recevons des bénédictions réelles et importantes dans cette vie, et nous aurons des bénédictions qui dépassent notre compréhension dans la vie à venir. Jésus-Christ veut que vous réussissiez. Mes chers frères et sœurs, il y a des jours et des nuits où vous vous sentirez écrasé, où vous aurez le cœur lourd, et vous n'arriverez plus à relever la tête. Alors, rappelez-vous que Jésus-Christ, le Rédempteur, est le chef de son Église. C'est son Évangile. Il veut que vous réussissiez. C'est pour cela qu'il a donné sa vie. Il est le Fils du Dieu vivant. Il a promis, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. J'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, le Seigneur. » Mes chers amis, le Sauveur guérit les cœurs blessés, brisés, et il panse vos blessures. Quelles que soient vos difficultés ou que vous viviez sur la terre, votre appartenance fidèle à l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et les pouvoirs divins de l'Évangile de Jésus-Christ vous aideront à persévérer joyeusement jusqu'à la fin. J'en rends témoignage de tout mon cœur et de tout mon esprit au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
The choir has just sang.
Le chœur vient de chanter. Où pourrais-je chercher? Nous remercions le chœur du tabernacle de la belle musique qu'il a interprétée ce matin. Notre dernier orateur sera Thomas S. Monson, premier conseiller dans la première présidence. Après le discours du président Monson, le chœur chantera « I believe in Christ » qui conclura cette session. La musique en a été écrite par John Longhurst, qui est organiste du tabernacle depuis 30 ans. Frère Longhurst prendra sa retraite à la fin de l'année. Nous le remercions de ses nombreuses années de service à l'Église. Après le cantique, David Evans, des 70, fera la prière de clôture et la conférence sera interrompue jusqu'à 14 heures cet après-midi.
I miss my colleague James E. Faust today.
Je regrette l'absence de mon collègue Faust, James Faust, aujourd'hui, et je présente mes condoléances à sa femme Ruth et à ses enfants. Je suis certain qu'il sert le Seigneur ailleurs. J'accueille ici les nouvelles autorités soutenues aujourd'hui, Haring, Cook et Gonzalez. Je les assure de mon soutien. Il y a 38 ans, lors d'une conférence générale tenue dans le tabernacle à Temple Square, j'ai parlé de Patton, un de mes amis d'enfance, qui est mort tout jeune. Le discours était intitulé « Madame Patton, Arthur est vivant ». Je me suis adressé à Madame Patton, la mère d'Arthur, qui n'était pas membre de l'Église. J'avais peu d'espoir qu'elle entende mon discours, mais je voulais parler à tous ceux qui pouvaient m'entendre du message glorieux de l'Évangile d'espoir et d'amour. Je me suis senti poussé récemment à parler de nouveau d'Arthur et à vous rappeler ou à vous relater ce qui s'est passé après mon discours de l'époque. Je voudrais tout d'abord vous parler d'Arthur. Il avait les cheveux blonds et bouclés et un sourire jusqu'aux oreilles. Il était le plus grand des garçons de la classe. Je suppose que c'est grâce à cela qu'en 1940, au moment où le grand conflit qui allait devenir la Seconde Guerre mondiale s'étendait sur une grande partie de l'Europe, Arthur a réussi à duper les officiers recruteurs et à s'engager dans la marine à l'âge tendre de 15 ans. Pour Arthur et la plupart des garçons, la guerre était une grande aventure. Je me rappelle l'allure qu'il avait dans son uniforme de marine. Comme nous aurions voulu être plus âgés, ou du moins plus grands, pour pouvoir nous engager aussi. La jeunesse est une période très spéciale de la vie. Comme Longfellow, le poète, l'a écrit, comme elle est belle, la jeunesse, comme son éclat est grand, avec ses illusions, ses aspirations, ses rêves. Livre des commencements, histoire sans fin. Chaque fille, une héroïne. Chaque jeune homme, un ami. La mère d'Arthur était si fière de l'étoile bleue qui ornait la fenêtre de sa salle de séjour. Cette étoile disait à chaque passant que son fils portait l'uniforme de son pays et était en service actif. Souvent, quand je passais devant la maison, elle ouvrait la porte et m'invitait à entrer pour lire la dernière lettre d'Arthur. Ses yeux se remplissaient de larmes. Elle me demandait alors de lire à haute voix. Arthur était tout pour sa mère, veuve. Je vois encore les mains rugueuses de Mme Patton remettre soigneusement la lettre dans son enveloppe. C'était des mains qui travaillaient dur. Mme Patton faisait le ménage dans le bâtiment de bureau du centre-ville. Chaque jour de sa vie, excepté le dimanche, on pouvait la voir longer le trottoir, seau et balai en main, les cheveux gris tirés en arrière en un chignon serré, les épaules lasses du travail et courbées par l'âge.
en mars 1944, alors que la guerre faisait rage. Arthur a été transféré de l'USS Dorsey, un destroyer, au USS White Plains, un porte-avions. Tandis qu'il était à Saipan, dans le Pacifique Sud, le bateau a été attaqué. Arthur était l'un des hommes à bord qui ont été portés disparus en mer. L'étoile bleue a été retirée de son emplacement sacré, dans la fenêtre de devant de la maison Patton. Elle a été remplacée par une étoile en or, indiquant que celui que l'étoile bleue représentait avait été tué au combat. Une lumière s'est éteinte dans la vie de Mme Patton. Elle était plongée dans les ténèbres totales et dans le désespoir profond. C'est avec une prière dans le cœur que je suis entré dans l'allée bien connue menant à sa maison, en me demandant quelles paroles de réconfort pourraient bien sortir de la bouche d'un simple gamin. La porte s'est ouverte. Mme Patton m'a pris dans ses bras, comme si j'étais son propre fils. La maison est devenue une chapelle. Lorsque cette mère terrassée par la douleur et un garçon maladroit se sont mis à genoux pour prier. Comme nous sommes relevés, elle a plongé ses yeux dans les miens et m'a dit, « Tommy, je n'appartiens à aucune église, mais toi si. Dis-moi, Arthur va-t-il revivre ?» Je lui ai témoigné du mieux que je pouvais, qu'Arthur revivrait effectivement. Quand j'ai raconté cela, il y a de longues années, à la conférence générale, j'ai mentionné que j'avais perdu Mme Patton de vue, et que je voulais, une fois de plus, répondre à sa question. Arthur va-t-il revivre ? J'ai parlé du Sauveur du monde, qui a foulé les chemins poussiéreux de villages que nous appelons maintenant avec vénération la Terre Sainte, qui a rendu la vue à l'aveugle, l'ouïe au sourd, la faculté de marcher au boiteux, et la vie aux morts. De celui qui nous a assuré tendrement, affectueusement, je suis le chemin, la vérité et la vie. J'ai expliqué que le plan de vie et l'explication de son cours éternel nous viennent du Maître du ciel et de la terre, Jésus-Christ, le Seigneur. Pour comprendre la signification de la mort, nous devons apprécier le but de la vie. J'ai dit que dans notre dispensation, le Seigneur a déclaré, « Et maintenant, en vérité, je vous le dis, j'étais au commencement avec le Père, et je suis le premier-né. L'homme était aussi au commencement avec Dieu. » Jérémie, le prophète, a écrit, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » Fin de citation. Quittant ce monde majestueux d'esprit, nous entrons dans l'étape grandiose de la vie pour nous montrer obéissants à tout ce que Dieu a commandé. Pendant la condition mortelle, nous passons de la petite enfance, nous sommes désemparés, à une enfance pleine d'interrogations, puis à la réflexion de l'âge adulte. Nous connaissons la joie et la douleur, l'accomplissement et la déception, le succès et l'échec. Nous goûtons le doux et l'amer. C'est cela la condition mortelle. Alors, dans chaque vie, vient l'expérience connue sous le nom de mort. Personne n'en est exempt. Tous doivent franchir ces portes. Pour la plupart des gens, il y a quelque chose de sinistre, de mystérieux dans ce visiteur indésirable qu'on appelle la mort. Peut-être est-ce la peur de l'inconnu qui fait que beaucoup redoutent sa venue. Arthur Patton est mort rapidement. D'autres s'attardent. Nous savons, par la parole révélée de Dieu, que les esprits de tous les hommes, dès qu'ils quittent ce corps mortel, sont ramenés auprès de ce Dieu qui leur a donné la vie. J'ai assuré à Mme Patton et à tous les autres qui écoutaient que Dieu ne les abandonnerait jamais, qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde pour nous enseigner par l'exemple la vie que nous devons mener. Son Fils est mort sur la croix pour racheter toute l'humanité. Les paroles qu'il a dites à une Marthe éplorée et à ses disciples nous apportent aujourd'hui le réconfort. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous soyez aussi. J'ai réitéré les témoignages de Jean le Révélateur et de Paul l'apôtre. Jean a écrit, et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant Dieu. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Paul a déclaré, et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. J'ai expliqué qu'en attendant le matin glorieux de la résurrection, nous marchons par la foi. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, de manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. J'ai réaffirmé à Mme Patton que Jésus lui a lancé à elle, à tous les autres, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Dans mon message, je lui ai expliqué que cette connaissance la soutiendrait dans son chagrin, qu'elle ne serait jamais dans la situation tragique de l'incroyante, que lors de la perte d'un fils, on a entendu dire, pendant qu'elle regardait le cercueil descendre dans la terre, « Adieu mon fils, adieu pour toujours. » Au lieu de cela, la tête droite, le courage intact et la foi inébranlable, elle pouvait lever les yeux pour regarder au-delà des vagues légères du Pacifique bleu et chuchoter « Au revoir, Arthur, mon fils bien-aimé, au revoir. » jusqu'à ce que nous nous retrouvions. J'ai cité les paroles de Tennyson, comme si c'était son fils qui le lui disait, « Le soleil est couchant et l'étoile est au soir. Un appel décisif me dit, viens, viens à moi. En franchissant la barre, fuyons le désespoir et gagnons la mer. Oui, avançons tout droit. Le crépuscule est là. J'entends du soir la cloche. Les ténèbres profondes touchent le firmament. Que nos adieux soient doux. Il faudra une torche au moment du départ à notre embarquement. Quoique loin du cercueil de cet hôtel de glace, le flot puisse m'entraîner sous l'égide du vent, je verrai mon pilote, oui, même face à face, quand j'aurai traversé l'inconstance du banc. Quand je terminais mon message, il y a si longtemps, j'ai exprimé à Mme Patton mon témoignage personnel, en qualité de témoin spécial, lui disant que Dieu notre Père se souvenait d'elle, que par la prière sincère, elle pouvait communiquer avec lui, que lui aussi avait un fils qui était mort, Jésus-Christ, le Seigneur, qu'il est notre avocat auprès du Père, le Prince de la paix, notre Sauveur et Rédempteur divin, et qu'un jour nous le verrions face à face. J'espérais que mon message à Mme Patton atteindrait et toucherait d'autres personnes qui avaient perdu un proche. Et maintenant, mes frères et sœurs, je vous raconte le reste de l'histoire. J'ai prononcé mon message de conférence le 6 avril 1969. Encore une fois, je n'avais guère l'espoir que Mme Patton entendrait le discours. Comme je l'ai mentionné, elle n'était pas membre de l'Église. Et puis, j'ai appris qu'une sorte de miracle avait eu lieu. N'ayant absolument aucune idée de qui parlerait à la conférence, ni des sujets qui seraient traités, les voisins, membres de l'église de Mme Therese Patton en Californie, où elle était allée habiter, l'ont invitée chez eux pour écouter cette session de conférence avec eux. Elle a accepté leur invitation et de ce fait, écouté la session même, où je vais adresser personnellement mon discours. La première semaine de mai 1969, à mon grand étonnement et à ma grande joie, j'ai reçu une lettre portant le cachet de Pomona en Californie, datée du 29 avril 1969. Elle était de Mme Therese Patton. Je vous en lis un extrait. Cher Tommy, j'espère que tu ne te déranges pas que je t'appelle Tommy, car c'est toujours comme cela que je t'appelle quand je pense à toi. Je sais comment te remercier du discours réconfortant que tu as prononcé. Arthur avait 15 ans quand il s'était engagé dans la marine. Il a été tué le 5 juillet 1944, un mois avant son 19e anniversaire. C'était merveilleux de ta part de penser à nous. Je sais comment te remercier de tes paroles consolatrices, tant quand Arthur est mort que dans ton discours. Je me suis posé beaucoup de questions au fil des années, et tu as répondu, « Je suis maintenant en paix au sujet d'Arthur. Dieu te bénisse et te garde toujours, affectueusement. » Thérèse Patton. Mes frères et sœurs, je ne crois pas que c'est par coïncidence que j'étais poussé à donner ce message particulier à la conférence générale d'avril 1969. Je ne crois pas non plus que c'est par coïncidence que Mme Thérèse Patton a été invitée par des voisins à se joindre à eux, chez eux, justement pour cette session de conférence. Je suis certain que notre Père Céleste se souvenait de ses besoins et voulait qu'elle entende les vérités réconfortantes de l'Évangile. Bien que Mme Patton ait quitté depuis longtemps la condition mortelle, je me suis senti fortement poussé à vous raconter la façon dont notre Père Céleste l'a béni et a pourvu à ses besoins. Elle, une veuve, je témoigne de toute la force de mon âme que notre Père Céleste aime chacun de nous. Il entend les prières des cœurs humbles. Il entend nos appels à l'aide, comme il a entendu Mme Patton. Son Fils, notre Sauveur, notre Rédempteur, dit à chacun de nous aujourd'hui, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec lui. » Serons-nous à l'écoute quand il frappera? Entendrons-nous cette voix? Ouvrirons-nous cette porte au Seigneur afin de recevoir l'aide qu'il est si prêt à donner? Je prie pour que ce soit le cas. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Our dear Father in heaven,
cher Père éternel, nous adressons à toi ce soir à la fin de cette conférence, réunion de conférence, et te remercions des nombreuses bénédictions que nous avons reçues, en particulier aujourd'hui, des magnifiques bénédictions de révélation, et la possibilité que nous avons aujourd'hui de soutenir une nouvelle première présidence.
Together with the callings of Elder Cook and Elder Gonzalez at this conference. Father, we ask you to bless.
Père, nous te demandons de bénir Frère Hinckley, Frère Monson et Frère Haring dans leurs appels de président. Nous te remercions, Père, de la bénédiction, la possibilité de les soutenir. Nous te demandons de bénir Frère Cook dans son appel, afin qu'il sache combien nous l'aimons et combien nous soutenons lui et chacun des membres des 12. Père, nous sommes reconnaissants de l'Évangile, comme nous l'avons chanté ce matin. Nous exprimons notre foi en ton Fils, et notre témoignage et notre profonde reconnaissance de la possibilité que nous avons d'être trouvés à ton service. Nous te demandons, Père, de continuer de bénir cette conférence, bénir les membres, les missionnaires, les saints à travers le monde. Père, nous te exprimons notre amour pour toi, notre reconnaissance pour l'expiation de ton Fils. Nous te demandons maintenant de bénir chacun d'entre nous, afin que nous puissions accomplir ce que tu voudrais que nous fassions. Nous te demandons ces bénédictions avec gratitude et amour, et au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
This has been the first session of the
177th. Vous avez assisté à la première session de la 177e conférence générale de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par le chœur du tabernacle mormon. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Communications. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission, sans autorisation écrite, est interdite.